les philosophes publics est le nom d'un collectif composé de professeurs de philosophie, créé en décembre 2015.
Notre objectif est de proposer une forme d'engagement politique.
En réaction aux diverses crises que traverse notre société et suite aux événements insupportables de ces derniers mois.
À notre échelle, et face aux passions tristes du ressentiment, de la peur et de la haine, nous souhaitons participer à la construction de nouvelles façons d'être citoyens, de vivre ensemble et de vivre en paix.
À l'écoute des autres, ouverts à la diversité des paroles, des points de vue et des propositions, nous voudrions nous retrouver là où la philosophie n'est pas nécessairement attendue.
Loin de l'entre-soi, nous sommes disposés à intervenir dans la rue, dans les centres sociaux, dans tous les lieux où le débat peut exister.
Tous les mois, nous nous retrouverons sur Radio Grenouille pour témoigner de ces échanges, les prolonger et continuer à penser ensemble.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, autour de la table, Morgane. Bonjour Morgane.
Bonjour Hélène.
Bonjour Louisa.
Bonjour.
Nous avons décidé de parler avec vous d'un thème très rabattu aujourd'hui dans l'espace public et qu'il nous semble important d'expliquer, de clarifier, la sécurité. Donc on s'est réunis ensemble lors d'une soirée pour échanger sur ce thème et il nous a semblé très très important d'en parler aussi sur Radio Grenouille. Je vais commencer par en fait lire un texte de Frédéric Gros, extrait de l'ouvrage Le principe sécurité, paru en 2012 aux éditions Gallimard. Et ensuite, je laisserai la parole à Louisa et à Morgane pour revenir sur le cadre que nous donne Frédéric Gros pour penser la sécurité. La sécurité constitue aujourd'hui un enjeu politico-médiatique formidable. Son évocation envahit la parole publique. Les responsables politiques en ont plein la bouche. On déplore une aggravation du sentiment d'insécurité. On énonce doctement que la sécurité est la première des libertés. On constate, à grand renfort de sondages, que la sécurité constitue, avec le chômage et l'écologie, une préoccupation majeure des populations. On en fait une condition indispensable au développement de l'enfant et à l'épanouissement de l'adulte. Par ailleurs, depuis quelques années sont apparues des expressions nouvelles. Sécurité alimentaire, sécurité énergétique, sécurité humaine, etc. Enfin, le secteur économique des sécurités sous toutes ses formes, informatique, domotique, surveillance, est en pleine expansion. Quand tout va mal, quand les peurs s'amplifient, les vendeurs de sécurité ont les poches pleines. Mais qu'est-ce que la sécurité? Un sentiment? Un programme politique? Des forces matérielles, un écran de fumée, une espérance, une damnation, une obsession pathologique, une source de légitimité, un bien marchand, un service public? On peut commencer par explorer quelques définitions. Et c'est donc ce que nous allons faire à présent avec Morgane.
Oui, merci Hélène. Donc effectivement, Frédéric Gros ouvre déjà le champ de notre réflexion par l'annonce de tous ces concepts problématiques. Revenons comme souvent en philosophie à l'étymologie du terme sécurité. Il vient du latin securus, qui signifie absence de souci, tranquillité de l'âme. Les stoïciens parlaient d'ataraxie, absence de trouble. Ce terme est d'ailleurs utilisé aujourd'hui pour nommer un médicament qui sert à nous calmer avant les opérations ou encore un vin. Conduit-il vraiment à cette absence de trouble? Ça, c'est un autre débat. La sécurité est donc au sens premier l'état d'esprit d'une personne qui se sent en confiance, rassurée, sereine. Elle se définit ensuite comme l'absence de danger. Se mettre en sécurité, c'est s'éloigner du risque. Quand on respecte les distances de sécurité en voiture, on s'éloigne du risque d'avoir un accident. Enfin, au sens politique du terme, celui qui nous intéresse en premier lieu ce matin, c'est un dispositif qui se met en place pour répondre et empêcher un danger. Comme la sécurité d'un pistolet qui empêche le coup de partir. Elle se décline sous trois formes. La sécurité nationale, visant à protéger les intérêts d'un pays par des moyens civils ou militaires. C'est ce qu'on pourrait appeler l'état gendarme. La sécurité civile, qui a pour mission de protéger les populations civiles ainsi que leurs biens et leurs activités. Et la sécurité sociale, dans le sens d'une protection sociale, qui fait appel à l'état-providence. Mais qu'est-ce que c'est que cet état-providence ? C'est une conception politique de l'État qui considère que ce dernier a un rôle fondamental à jouer dans la protection sociale du peuple. Il est celui qui doit permettre à tous de travailler, de se soigner, de se nourrir, en prenant en charge les différents risques sociaux comme la maladie, la vieillesse, l'emploi, la famille, etc. L'État-providence est fondé sur la solidarité entre les différentes classes sociales et la recherche affirmée d'une justice sociale seule capable d'assurer cette sécurité. La première opposition qui se dresse ici est de savoir justement si la sécurité doit concerner l'individu ou l'ensemble de la société. Le terme d'État-providence a d'abord été créé de façon ironique, comme un État qui se prend pour la providence et qui croit qu'il peut s'occuper de l'intérêt de chaque citoyen pour parvenir à un intérêt général. Il faut que chacun puisse vivre dignement si l'on souhaite une réelle sécurité générale. C'est ce qui ressort de ce terme de État-providence. La sécurité est-elle ce qui doit permettre la tranquillité de l'âme et la sérénité de chacun, ou doit-elle être ce qui doit anticiper toute forme de risque ? On voit aussi que le concept de sécurité devient fondamentalement lié à la liberté. Peut-on contraindre mes libertés si cela permet d'assurer ma sécurité et la sécurité de l'ensemble de la société ? Ces questions résonnent dans nos têtes aujourd'hui avec le renouvellement continuel de l'état d'urgence. Jusqu'où est-ce que je dois accepter de renoncer à ma liberté pour assurer cette sécurité-là sans tomber dans le sécuritarisme ? Cette question se pose au niveau de l'État comme au niveau de la famille et de moi-même. Jusqu'où est-ce que la société peut accepter de me mettre en danger ? Est-ce que quand je fume, la société doit prendre en charge mon cancer ? Doit-on m'imposer de faire du sport sur prescription médicale pour me permettre d'être en bonne santé et de coûter moins cher à la société ? Est-ce que je dois protéger mon enfant au point de ne pas l'autoriser à faire tout ce qui pourrait le mettre en danger ? Quand le petit enfant apprend à marcher, il faut à un moment le laisser partir de nos bras, sécure et protecteur, pour qu'il fasse ses premiers pas. Il risque de tomber, mais il apprendra surtout à se débrouiller par lui-même et à se déplacer. Kant nous dit, dans ce très beau passage tiré d'un ouvrage qui s'appelle « Qu'est-ce que les Lumières ?», que pour éclairer sa pensée et devenir majeur, autonome, il faut oser prendre des risques. « Ose savoir », nous dit-il, « aie le courage de te servir de ton propre entendement. » Revenons à l'État. Est-ce que je peux accepter que la garantie de ma sécurité soit inversement proportionnelle aux libertés qui me sont attribuées ? Est-ce que le danger qui nous menace doit m'imposer de me replier, de mettre ma vie en sécurité pour me préserver d'un risque potentiel ? On attribue à Franklin Roosevelt cette citation : « Un peuple prêt à sacrifier sa liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et finit par perdre les deux. » Mais pouvons-nous être libres sans sécurité ? La sécurité n'est-elle pas le premier des droits fondamentaux ? Et je vous laisse la parole, Louisa, pour essayer de débrouiller ces questions.
On peut distinguer, je pense, le rapport entre politique et sécurité, entre la vision de la modernité politique et celle de la modernité très récente, qu'on peut dire à partir de, on va dire, des années 1980, qui change un petit peu la donne. Ce qu'on appelle la modernité en politique, c'est en fait la période qui commence à la Renaissance, après le Moyen-Âge, et qui se caractérise en fait par une autonomisation du politique vis-à-vis du pouvoir de l'Église, de la religion, ou même... en regard de l'Antiquité vis-à-vis de la nature, c'est-à-dire que le politique n'est plus... la finalité du politique, le sens du politique n'est plus donné par une transcendance ou par la nature, mais par l'homme lui-même. Et ainsi, le politique est lié à une anthropologie, à une conception de l'homme. Et justement, cette anthropologie de la modernité définit l'homme par un sentiment fondamental qui est le désir de se conserver soi-même, qui est considéré désormais comme le droit fondamental qui va être au fondement du droit individuel. À savoir que chaque individu cherche à se maintenir en vie, cherche donc à lutter contre les dangers, contre la peur, et que ce droit est un droit inaliénable qui fonde finalement l'institution politique. On voit donc qu'il y a en filigrane la notion de sécurité, puisque cette peur du danger qui est concomitante du désir d'autoconservation se dépasse dans des institutions qui donc sont définies par la souveraineté de l'État, qui garantit donc cette sécurité de l'individu, c'est-à-dire que désormais, le rôle de l'État est d'assurer l'intérêt et la sécurité de l'individu sujet de droit, porteur de droit. Il ne s'agit pas d'assurer forcément l'idée d'un bien commun, d'un bonheur commun, ni d'un salut dans l'au-delà, mais bien de la sécurité et de l'intérêt de l'individu. Et donc le rôle de l'État donc dans la pensée, dans la modernité politique, est bien lié à cette anthropologie et à cette finalité sécuritaire, on peut dire. Cependant, ce qu'il faut bien souligner, c'est que si la sécurité semble être bien la finalité du politique, cette sécurité est concomitante et inséparable de la liberté, de la notion de droit individuel et de la logique, on pourrait dire, d'un état de droit. Dans le sens où cette même conception politique qui se dégage de la transcendance se fonde sur la notion de sécurité, mais développe aussi une conception libérale, c'est-à-dire que la logique sécuritaire est concomitante d'une logique libérale. Qu'est-ce que ça signifie pour résumer, pour aller vite, on pourrait dire que cette peur de l'insécurité correspond à deux sortes de dangers, deux sortes de violences. La première, qui est la plus évidente et qui est décrite dans l'idée des divers états de nature chez les philosophes, c'est la violence des autres hommes. Donc l'État doit garantir contre la violence des autres hommes, d'où les lois qui permettent de gérer, d'empêcher ce danger et de punir la criminalité. Mais il y a un autre danger auquel on ne pense pas assez, de nos jours, je pense, quand on parle de l'insécurité, c'est que ces mêmes philosophes pensent qu'il y a une autre violence qui est un risque pour la sécurité de l'individu, qui est l'abus du pouvoir. Donc il y a deux risques, celui des autres individus, mais aussi celui du pouvoir, qui risque de devenir abusif. Et en cela, le maître de cette pensée, je pense, dans la modernité, c'est bien Montesquieu, qui montre bien d'ailleurs dans sa définition qu'il définit la liberté, c'est assez étonnant, comme le sentiment ou l'opinion que l'on a de sa sûreté. C'est-à-dire la liberté, c'est l'opinion que l'on a de sa sûreté. On ne peut pas séparer le concept de liberté et le concept de sécurité. Et donc cette opinion que l'on a de sa sûreté dépend donc de la loi qui punit en effet la violence des autres individus, mais aussi de la constitution de l'État qui permet de garantir l'individu contre les abus du pouvoir, et où le pouvoir doit arrêter le pouvoir. Et où il faut qu'il y ait un état de droit qui garantisse en particulier la présomption d'innocence, etc. C'est-à-dire de la bonté des lois criminelles, dit Montesquieu, dépend aussi la liberté du citoyen. Et les lois criminelles, c'est le droit pénal. Donc on a bien cette idée d'une, on ne peut pas séparer l'état de droit, la constitution, la liberté et la sécurité. Ce n'est pas exactement de la même sécurité que l'on parle, comme disait Morgan tout à l'heure, dans la modernité très récente. On pourrait dire que on est passé de cette sécurité qui doit être garantie par le politique à la sécurité la recherche d'une société qui gère les risques, où il ne s'agit plus seulement d'interdire et de prescrire des actes dangereux, mais de créer des dispositifs de sécurité. Je vais lire un tout petit passage d'un livre de Michael Fessel qui s'appelle « L'état de vigilance », qui dit la chose suivante. « Désormais, la liberté n'est plus envisagée comme l'origine de la transgression. Il n'est plus nécessaire de considérer la peine comme la rétribution de l'acte commis. Elle doit être plutôt une mesure qui réinstalle le sujet dans une forme de rationalité économique. » Plus précisément encore, la peine est une information mise à la disposition des individus sur les risques qu'ils encourent dans leurs projets. Enracinée d'après Michel Foucault dans l'utilitarisme du XVIIIe siècle, ou approche du crime en termes de coûts de répression et coûts de la délinquance, plutôt que de multiplier les interdits et les prescriptions, les dispositifs de sécurité construisent des seuils de tolérance et produisent des techniques qui permettent d'annuler une réalité jugée socialement nocive. Vous voyez qu'on passe à un concept important qui est celui de dangerosité, où le coupable, où le, justement le criminel n'est plus tellement appelé coupable, mais plutôt nocif, où on passe à un idéal d'absence de récidive, de tolérance zéro, comme on dit dans les discours politiques, c'est-à-dire que l'idéal de l'insécurité doit être éliminé et que par conséquent, la loi elle-même semble être insuffisante, hein, puisqu'une loi, par définition, ne peut pas garantir à 100% la réussite. Et donc, il faudrait presque trouver dans l'idéal un système qui gère automatiquement le danger et qui, par conséquent, ne s'adresse pas à la volonté de l'individu qui doit être à partir d'interdictions ou de normes, mais comme à une sorte d'automatisme qui élimine complètement et naturellement toute source de danger. Et donc, paradoxalement, cette demande de gestion des risques absolus, on pourrait dire, s'adresse à l'État. Mais en réalité, ça ne peut pas être complètement rendu par les fonctions régaliennes, comme c'était le cas dans la pensée antérieure ou moderne. Mais c'est lié finalement à la privatisation de la sécurisation des individus. Et finalement, c'est concomitant de l'affaiblissement de la souveraineté politique. Et le symbole même de ce rapport à la sécurité, c'est les murs qui sont érigés un peu partout dans le monde et qui deviennent les modèles de ce rapport-là à la sécurité et qui sont donc en rapport, cette vision-là de la sécurité est en rapport avec une réalité politique très particulière, la perte de la souveraineté des États-nations et le monde globalisé dominé par une organisation économique néolibérale.
Merci Louisa. D'ailleurs, nous allons prolonger cette problématique de la sécurité dans l'émission suivante à travers la question de l'insécurité dans le cadre largement néolibéral d'aujourd'hui et de l'effritement de la protection sociale, dans nos rapports au terrorisme, à la guerre. Et nous réfléchirons à l'articulation qu'on peut faire entre la sécurité civile et la sécurité sociale. Voilà, merci Morgane, merci Louisa, et à la prochaine émission.
Les philosophes publics est le nom d'un collectif composé de professeurs de philosophie, créé en décembre 2015.
Notre objectif est de proposer une forme d'engagement politique.
En réaction aux diverses crises que traverse notre société et suite aux événements insupportables de ces derniers mois.
À notre échelle, et face aux passions tristes du ressentiment, de la peur et de la haine, nous souhaitons participer à la construction de nouvelles façons d'être citoyens, de vivre ensemble et de vivre en paix.
À l'écoute des autres, ouvert à la diversité des paroles, des points de vue et des propositions, Nous voudrions nous retrouver là où la philosophie n'est pas nécessairement attendue.
Loin de l'entre-soi, nous sommes disposés à intervenir dans la rue, dans les centres sociaux, dans tous les lieux où le débat peut exister.
Tous les mois, nous nous retrouverons sur Radio Grenouille pour témoigner de ces échanges, les prolonger et continuer à penser ensemble.